Audiolib présente Changer méthode de Édouard Louis, lu par Christophe Montenez. Pour Giovanni S. Je ne suis plus rien qu'un prétexte. Jean Genet, Journal du voleur. Deux prologues. Il est minuit 33 et je commence à écrire depuis cette chambre sombre et silencieuse. Dehors, à travers la fenêtre ouverte, j'entends des voix dans la nuit et les sirènes de police, au loin. J'ai 26 ans et quelques mois. La plupart des gens diraient que ma vie est devant moi, que rien n'a commencé encore, et pourtant, je vis depuis longtemps déjà avec l'impression d'avoir trop vécu. J'imagine que c'est à cause de ça que le besoin d'écrire est si profond, comme une manière de fixer le passé dans l'écrit, et par là, je suppose, de s'en débarrasser. Ou peut-être, au contraire, que le passé est tellement ancré en moi maintenant qu'il m'impose de parler de lui à tous les instants, à chaque occasion, qu'il a gagné sur moi et qu'en croyant m'en débarrasser, je ne fais que renforcer son existence et son empire sur ma vie. Peut-être que je suis prise au piège. Je ne sais pas. J'avais 21 ans et il était déjà trop tard. J'avais déjà trop vécu. J'avais connu la misère. La pauvreté dans mon enfance, les scènes répétées de ma mère qui me demandait d'aller frapper à la porte des voisins ou de ma tante, la voix implorante pour qu'ils nous donnent un paquet de pâtes et un pot de sauce tomate, parce qu'elle n'avait plus d'argent et qu'elle savait qu'un enfant susciterait plus facilement la pitié qu'un adulte. J'avais connu la violence. Mon cousin mort en prison à 30 ans. Mon grand frère malade de son alcoolisme dès l'adolescence. Qui se réveillait ivre le matin avant d'avoir bu tellement l'alcool imprégnait son corps. Ma mère qui le niait de toutes ses forces pour protéger son fils, qui nous jurait chaque fois qu'il buvait que c'était la dernière fois, qu'après ça, il ne boirait plus jamais. Les bagarres au café du village, le racisme obsessionnel des communautés rurales et isolées, présent sous chaque mot, ou presque, chaque phrase. C'est plus la France, chez nous, c'est l'Afrique, on ne voit plus que des étrangers partout. La peur constante de ne pas tenir jusqu'à la fin du mois, de ne pas pouvoir s'acheter du bois pour chauffer la maison ou de ne pas pouvoir remplacer les chaussures déchirées des enfants. Les phrases de ma mère. Je veux pas que mes gosses, ils se tapent la honte à l'école. Et mon père. Mon père, malade d'une vie de travail à l'usine, à la chaîne, puis dans les rues à balayer les ordures des autres. Mon grand-père, malade de la même vie, malade du fait que sa vie était la reproduction quasi exacte de la vie de son arrière-grand-père, de son grand-père, de son père et de son fils. Privation, précarité, arrêt de l'école à 14 ou 15 ans, vie à l'usine, maladie. Quand j'avais 6 ou 7 ans, je regardais ces hommes autour de moi et je pensais que leur vie serait la mienne, qu'un jour j'irais à l'usine comme eux et que l'usine me ferait ployer le dos à moi aussi. J'avais fui ce destin et j'avais été vendeur dans une boulangerie, gardien d'immeuble, libraire, serveur, arracheur de tickets dans différents théâtres, secrétaire, professeur particulier, prostitué, moniteur dans des colonies de vacances, cobaye pour des expériences médicales. J'avais par miracle étudié dans une école considérée comme l'une des plus prestigieuses d'Europe, d'où j'étais sorti diplômé en philosophie et en sociologie, alors que personne n'avait fait d'études dans ma famille. Je lisais Platon, Kant, Derrida, Beauvoir. J'avais connu, après les classes les plus pauvres du nord de la France, la petite bourgeoisie de province, son aigreur, puis, un peu plus tard, le monde intellectuel parisien, la grande bourgeoisie française et internationale. J'avais fréquenté les personnes les plus riches du monde. J'avais fait l'amour avec des hommes qui possédaient dans leur salon des œuvres de Picasso, de Monet,